Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Heine.
Le 19e siècle est le siècle du roman. Du collège au lycée, les professeurs de lettres donnent à lire Maupassant, Stendhal ou Flaubert. Les milieux sont souvent bourgeois. Les préoccupations se veulent élevées ou parfois futiles. En tout cas, très éloignées des contingences matérielles qui permettent la survie de la majorité. Le livre de notre invité d'aujourd'hui s'intéresse à un autre destin, celui d'un métayer du Lauragais au moment de la Révolution industrielle. Si les rapports de classe existent aussi en pays toulousain, une anomalie physique va bouleverser le sort de ce fils de laboureur. En effet, il est immense. En raison de ce gigantisme, il va tenter de s'extraire de sa condition en trouvant les moyens de valoriser cette difformité, comme on l'appelait à l'époque. C'est le destin de cet homme qui rencontrera la gloire et aussi une des sommités de la médecine de son temps que nous raconte Pascal Dessin dans son livre intitulé « Un colosse » paru aux éditions Rivage. Pascal Dessin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir au micro de Radio Présence pour parler de l'un de vos derniers livres paru en poche cette année aux éditions Rivage. Vous êtes l'auteur d'une œuvre très riche, principalement composée de romans, de polar, et dont la qualité a été reconnue par la critique. Vos romans ont été de nombreuses fois primés. Vous avez reçu le Grand Prix de la littérature policière, le Grand Prix du roman noir français, le Prix Mystère de la critique et le Prix Jean Amila Meckert. Mais aujourd'hui, nous vous accueillons pour un récit où je n'ai trouvé ni policier, ni meurtrier. Nous y faisons la connaissance de Jean-Pierre Mazas. Où est-il né? Qui est-il? Et surtout, comment l'avez-vous rencontré?
Oh là là, c'est tout un débat, c'est toute une aventure, une odyssée. Comment je l'ai rencontré? Ben par une balade dans Toulouse, il y a fort longtemps, au musée du Vieux Toulouse, qui est un endroit parfaitement insolite et riche d'évocations. Et j'avais découvert dans une vitrine le sabot, le grand sabot d'un homme. Il chaussait du 54, et puis le moulage de sa main, et d'une grande main. Et c'était intriguant pour moi, ça l'est encore peut-être pour de nouveaux visiteurs, parce que c'est toujours dans cette vitrine. Et puis je me suis demandé simplement, mais quel était cet homme, un géant, inévitablement. Donc je me suis penché sur la vitrine et j'ai découvert en toute simplicité cette inscription, Jean-Pierre Mazas, 1847-1901, métayer à Montastruc, le géant de Montastruc. C'est resté un peu dans ma mémoire. Je vous parle d'un temps, c'est peut-être il y a 25 ans de cela. Et puis le hasard de la vie m'a fait rencontrer des personnes à qui je parlais régulièrement de ce géant, et puis une personne m'apportait un article de la Dépêche, me disait, tiens, il y a un érudit local à Montastruc, la conseillère qui a fait un petit livre sur lui, voilà. Donc les éléments sont venus à moi comme ça. Et puis à l'occasion du festival du roman noir Toulouse Polar du Sud, il y a quelques années maintenant, on m'avait confié le soin d'écrire un rallye dans la ville de Toulouse. Et j'avais fait venir les joueurs, les festivaliers, en différents points de la ville, des endroits hautement symboliques et riches justement d'évocations. Et le passage par le musée du Vieux Toulouse était obligatoire. Et la question simple, elle était aussi, qui était le géant de Montastruc, le laboureur, voilà.
Vous avez lancé des enquêteurs.
Voilà. Non, mais là, ils avaient simplement une question à poser.
Trouver, voilà.
Mais pour écrire les quelques lignes là nécessaires au livret, je m'en suis remis au musée. Et là, on m'a apporté d'autres éléments. Voilà. Et puis le temps a passé encore. Et quand j'ai eu terminé l'écriture de L'horizon qui nous manque, je voulais un peu m'écarter de mes habitudes de romancier, romancier social, romancier polar. Je voulais aussi avoir d'autres expériences d'écriture. Et donc, en toute simplicité, un soir, fort d'Internet aujourd'hui, j'ai tapé Jean-Pierre Mazas. Et le premier élément qui m'est venu, c'est son acte de décès, qui avait été numérisé.
Il figure du reste dans votre livre.
Voilà, que je duplique tel quel. J'ai adouci de la ponctuation, peut-être. J'ai fait un petit travail de toilettage, on va dire. Mais il est exactement tel quel. Et alors, ce qui a été quand même très curieux, et ce qui a motivé le livre, en fait, en premier lieu, c'est qu'il y avait une énorme contradiction. Enfin, quelques contradictions entre l'acte de décès et des éléments que j'avais pu glaner jusque-là. Et là, enquête. C'est pour ça qu'on est quand même un peu dans une enquête, une autre enquête, mais ça a commencé comme ça.
Très bien. Donc, ce Jean-Pierre Mazas, il naît en terre lauragaise.
Oui, on ne sait pas trop où il naît à ce moment-là.
Et c'est ça le problème.
C'est ça le mystère, oui.
C'est ça le mystère.
Ouais. Alors, un mystère qui s'est éclairci bien plus tard, et j'ai compris pourquoi, parce que le livre maintenant, dans son édition originale à un an et demi, il est sorti là fraîchement en poche, il a bien vécu sur le terrain, et j'ai eu la joie, un jour en signature, c'était chez mon ami Dominique G de la librairie Calligramme, j'ai eu la chance de voir venir à moi ses descendants. Qui évidemment avait été intrigué par un article de La Dépêche, par une émission à France 3, et qui venait voir de quoi il a retourné. Quoi. Ça a été un moment très très émouvant, et ce qui a été pour moi quasiment spectaculaire, c'est qu'ils sont venus avec l'arbre généalogique de la famille. Et donc eux, Nicole et Alain, s'ils m'entendent, ils sont de la ligne du frère du géant, voilà. Non, de l'oncle du géant. Et donc j'ai compris en voyant l'arbre pourquoi il y avait eu confusion, parce que à l'époque il n'y avait pas que Amazas, ça va sans dire, mais il y avait à peu près dans la famille toujours les mêmes prénoms. Voilà. Et donc, à un moment donné, Jean-Pierre, on a pu croire, effectivement, qu'il était né à Lavore, parce que l'oncle vivait à Lavore. Et donc, la confusion s'expliquait. Mais moi, ça a été une taquinerie. Hein, ça a été une manière de taquiner mon esprit, voilà, et puis de créer un petit peu de suspense, parce que c'est comme ça que ça commence. Où est-il né? On savait où il était mort, à Toulouse, enfin, en tout cas dans le train. Mais pour ce qui était de son lieu de naissance, donc j'ai mis en place toute une espèce d'acrobatie, voilà. Et les faits, la réalité ne m'a pas trop démenti, parce que j'ai veillé de toute façon à rester toujours dans la vraisemblance et non pas dans le réalisme.
Oui, réalisme, parce que en fait, Jean-Pierre naît dans le Lauragais et il vit son enfance, son adolescence, dans un triangle géographique d'environ 10 à 15 kilomètres, entre Verfeil, Lavore, Montastruc. C'est un travailleur de la terre. D'ailleurs, il a toujours revendiqué son nom de Jean-Pierre, le laboureur.
Le laboureur.
Le laboureur de Montastruc. Il vit dans à quelques kilomètres de Toulouse, qui est en train de changer quand même.
Oui, mais Toulouse reste quand même une ville, un grand village quand même. On peut même pas imaginer aujourd'hui les limites de la ville. Était toute proche d'ici, de Saint-Cyprien là. Et donc le quartier où je vis aujourd'hui, le quartier Sainte-Anne, Saint-Michel, c'était la campagne, hein, voilà. Et puis je l'explique quand le train rentre dans Toulouse.
Ça c'est la modernité qui arrive. Voilà. Lui, il le voit de loin.
Oui, oui.
Il est en train de labourer.
Voilà, tout
à fait. Il est en train de labourer son champ.
Voilà. Mais pour ce qui est de Toulouse. Quand le train arrivait en gare de Toulouse en 1900, jusqu'à la gare Rénale, ce n'est que la campagne. On a du mal à se le figurer aujourd'hui, puisque c'est pas de la ville à perte de vue, mais c'est urbanisé d'une manière abondante, quoi. Donc voilà, Et Jean-Pierre, il va prendre beaucoup le train dans sa vie.
Oui, tout à fait. Mais avant de prendre le train, il va rester dans son Lauragais natal. On dit d'abord que le sort s'acharne quand même parce que son père décède un an après sa naissance. Donc finalement, sa mère vit avec ce fils unique.
Oui. Il y a le grand-père encore pendant un temps, mais il meurt très vite. Hein, je crois 2 ans plus tard après.
Et on s'aperçoit rapidement que Jean-Pierre a un développement qui va faire que sa force...
Pas très vite, parce que à la vérité, jusqu'à 12-13 ans, il était un garçon tout à fait normal. C'est à l'adolescence, alors je ne peux pas le situer exactement, hein, moi. Il n'y a pas non plus des mémoires de famille qui l'attestent, mais à un moment donné, ben, il grandit d'une manière spectaculaire. On n'imagine pas encore que c'est une maladie, hein, on va le savoir beaucoup plus tard dans le livre et dans sa vie. S'en rendra-t-il compte lui-même? Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions sur le mental de ce garçon. Ça devait être quelqu'un d'assez simple, qui prenait les choses comme elles venaient.
D'ailleurs, vous dites qu'il parlait principalement le patois.
Oui, un patois, et bah, parce qu'il n'a pas été à l'école. Hein, l'école n'est pas encore obligatoire hein, quand il naît, lui. Hein, ça sera un apport de la Troisième République.
Il ne saura jamais écrire.
Et puis plus tard, quand il aura besoin d'échanger avec un Parisien, on y viendra sans doute tout à l'heure.
Ouais, ça, c'est
un... il aura besoin de ce qu'on appelait à l'époque un truchement, donc un interprète, et en l'occurrence là, une interprète. Ça veut dire qu'il était quand même... Mais c'était le cas de beaucoup de gens, hein, la majorité même, vous savez, un peu plus tard, en 14-18, dans les tranchées, beaucoup de paysans de ce pays ne se comprenaient pas. Hein.
Bien sûr, les Bretons parlaient breton.
Oui, c'était... voilà. C'est quelqu'un de son époque, un pauvre bougre, on va dire, mais c'est plus complexe que ça.
Oui. Sa mère devait se réjouir de sa force physique, malgré tout. Et puis, l'entourage a dû profiter sans doute, après son adolescence, de ses capacités.
Alors, c'est un petit peu ce que je me dis. Je ne le dis pas clairement dans le bouquin. Mais je pense que comme c'était quelqu'un qui de toute façon, enfin, qui devait être très bon, je pense, généreux, il se mettait au service et certainement qu'on en a abusé, certainement. Après, quand on a une force physique près de soi comme ça, qui peut tout faire, lever des charrettes,
l'imaginez porter des barriques.
Voilà, ça c'est un fait réel, enfin qui a été rapporté au fil du temps.
Des sacs de farine.
Oui, ça aussi c'est réel. Pour ce qui est de ses prouesses, à part l'acte qui a provoqué l'accident à un moment donné et qui a fait basculer sa vie, j'ai pas inventé de prouesse. Mais même la prouesse de chez le coiffeur, là, quand il soulève le client sur son siège d'une main. C'est peut-être la légende, attention. Hein. Mais c'est un fait dit réel qui s'est propagé, diffusé au fil du temps.
Alors tout à l'heure, vous parliez des conscrits de 14-18. Leur taille était évidemment plus petite que la nôtre. Et donc ce Jean-Pierre Mazas qui mesure plus de 2 mètres.
Alors quand il passe le conseil de révision, il n'est pas encore le géant qu'il sera, c'est-à-dire 2m20, 2m22.
Il a 21 ans.
Voilà, il fait 2m, 2m5 par là. Et il a pas fait, le conseil de révision, il est plus jeune. Est plus jeune au conseil de révision, on y allait plus jeune. Hein. Mais il est encore en croissance, hein, en pleine croissance, et ce qui est quand même assez impressionnant, parce que imaginez à une époque où la moyenne de taille devait être 1m70, hein, et encore,
peut-être moins,
quand on voit les uniformes dans les musées, on se dit, waouh, les gens étaient petits.
Hein,
et donc, peut-être moins, et lui, il fait déjà plus de 2 mètres. Donc, il domine tout le monde. Sur les marchés, il domine tout le monde, partout.
Voilà. Toujours plus grand. Alors, il est dans l'esprit du temps, enfin, malgré lui, c'est-à-dire, c'est l'esprit du toujours plus, parce qu'au-delà de la biographie de Jean-Pierre Mazas, que vous romancé, de ce récit historique, de cette enquête. Vous nous livrez l'esprit du temps qui est cette fin du 19e siècle où il faut construire la tour Eiffel toujours plus grande. Il y a ce kilométriste infatigable dont vous parlez, qui est un homme qui va courir et contre Paris sans s'arrêter à Paris, ce coup-ci avec argent sonnant et trébuchant. Donc on est dans un esprit, l'esprit du progrès finalement.
Oui, 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 de la compétition. Ça commence à apparaître. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle le sport, mais il y a ce qu'on pourrait qualifier de performateurs ou de performeurs, je ne sais pas, comme le kilométriste. Il y a des gens qui se lancent des défis et le monde va vite. En même temps, alors c'est le paradoxe. Qui me fascine, moi, dans cette période-là, surtout la deuxième moitié du 19e jusqu'à 14-18, là, c'est qu'on a quand même une France, une Europe qui stagne, qui est en proie à des conflits sociaux, à une économie incertaine.
D'ailleurs, au détour d'une phrase, vous dites... d'une page, vous dites qu'il y a déjà la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a l'importation de produits agricoles.
La concurrence, oui.
L'Ukraine, ouais. L'Australie, l'Amérique, déjà c'est on incroyable. Est dans la mondialisation.
C'est incroyable. Et donc on est là dans un état, dans une époque de crise, c'est une crise sociale, et puis on a toute une France qui vit comme autrefois, enfin pour nous, cette France-là est autrefois, mais eux, comme autrefois, c'était une permanence dans les pratiques agricoles, dans le fonctionnement des familles, dans le lien
ça
avec...
Ça, c'est pas encore mécanisé.
Voilà.
Il n'y a pas les engrais.
Exactement. Quoique ça commence à arriver un peu.
Dans le nord de la France.
On l'évoque en Picardie, les premières expérimentations d'intrants, de pesticides, etc., chimiques. La chimie fait ses premiers pas. Hein. Et puis le monde, il fait rail, quoi. On met du fer partout, les locomotives sont là, on va tracer des voies de chemin de fer à travers toute l'Europe, ça sera le moyen de locomotion. On va même construire plus qu'il ne faut, à tel point que dans certaines régions, on va faire des lignes qui ne serviront jamais, parce qu'il y aura à un moment donné une autre concurrence ou un contexte économique différent, une bascule, un effet de bascule. Et ce qui est assez fascinant encore, je crois que tout est fascinant dans ce personnage, c'est que sa malformation, son handicap se développe au moment de toute cette progression des technologies. Faut s'imaginer quand même qu'en même temps que le fer, la vapeur, l'électricité arrive. On aura les premières expériences photographiques. Et puis, en pas longtemps après, on aura le cinéma. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Et je mets ça assez en rapport à ce que, si on avait le temps d'y penser, parce qu'on est submergé par des actualités de toutes sortes et des menaces de toutes sortes, mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec cette conquête spatiale qui renaît là. Je sais pas si moi ça m'effraie en partie, mais c'est assez enthousiasmant, quoi, d'imaginer déjà dans 2 ans à nouveau des hommes sur la Lune comme une étape pour aller sur Mars, et puis aujourd'hui tous ces satellites qui nous permettent ce qui nous paraît comme des évidences alors que ce ne sont pas des évidences, de communiquer, de voilà. Et je crois qu'il y a un grand rapport entre ce qui pouvait être perçu par la personne ordinaire avec la connaissance qu'il avait de son terrain, de sa vie, et ce que nous, on peut capter de ce qui est en train de se produire là.
D'accord. Écoutez, on va faire, si vous le permettez, Pascal, une pause musicale. Je vous propose d'écouter La Pavane de Gabriel Fauré. Nous revenons ensuite à l'antenne.
Merci.
parole d'auteur. Christophe Hyde.
Nous écoutions La Pavane de Gabriel Fauré par le Chœur de Radio France sous la direction de Martina Batic. Gabriel Fauré, né en 1845 à Pamiers, donc un contemporain de Jean-Pierre Mazas, le Colosse, qui donne le titre à votre livre, Pascal Dessin. Pour revenir justement à ce Colosse, il est encore dans sa campagne lauragaise, mais il va connaître un changement dans sa vie. Il va rencontrer une activité, je ne sais pas comment, vous parliez du sport tout à l'heure, ce n'est pas vraiment un sport, c'est-à-dire qu'il va devenir lutteur.
Voilà. Oui, ouais, c'est le sport, enfin c'est le sport, c'est l'activité physique, on va dire, principale de l'époque. Hein. Le football n'existe pas, le rugby non plus, le cyclisme non plus, des gens courent un peu, mais c'est tout. Et par contre, la lutte, ben, ça remonte à l'Antiquité, hein, sous une forme ou une autre, et elle a évolué. Et il se trouve que ça avait tourné un petit peu dangereux, on va dire. Ça avait tourné au pugilat, un peu, voilà, ouais, un peu agressif, un peu dangereux. Et puis il y a un homme qui a mis de l'ordre un peu dans tout ça, et puis qui a adouci un petit peu la discipline. Et c'est devenu la lutte à main plate, comme on dit, voilà. Et c'était très populaire parce que vous aviez des lutteurs en compagnie, hein, qui traversaient l'Europe entière, le monde entier même, pour aller défier les gens dans les villages, dans les contrées.
Alors, fallait qu'ils respectent des règles. Je lis dans votre livre, la règle est de ne pas attraper l'autre au-dessous de la ceinture. Les prises et torsions douloureuses sont interdites. On ne blesse pas l'adversaire, ça change les autres pugilats, le public apprécie.
Oui, il y avait, on essayait d'apporter une certaine distinction à une discipline qui restait quand même rugueuse. Ça rigolait pas, surtout dans les villages, quand les lutteurs devaient provoquer, se battre avec des gens du cru. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas à quel moment exactement, mais comme souvent à l'époque, il y avait des provocations publiques. Voilà, qui viendra défier le dieu sur terre, Hercule, enfin bon...
Il y a souvent des références antiques.
Ah là, c'était, ils avaient du verbe.
Même du biblique aussi, avec Goliath.
Ah oui, mais c'est un peu...
Les titans, voilà, les Hercules, les cyclopes.
Les cyclopes, mais tout y passe, mais c'est savoureux. Toujours est-il, voilà, il faut venir défier Hercule en personne sur le plateau, sur le tréteau, et on provoquait les gens comme ça. Alors c'était dangereux parce que il y en a qui n'étaient pas très très habile, quoi. Ils y allaient de toute leur force, sans nuance, voilà. Et ce qui s'est passé certainement, c'est que sur une provocation comme ça, bah Jean-Pierre Mazas, il est monté sur le tréteau et puis il a mis le lutteur par terre. Et ça a dû lui donner des idées, il a dû être encouragé un peu par les gens du cru. C'était vraiment très populaire, hein. Ça se jouait dans les salles de spectacle où on faisait du théâtre. Je veux dire, il y avait à Toulouse plusieurs salles.
Ah oui, vous ressuscitez des lieux. L'arène athlétique, ouais. Le skating, le casino musical. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est là aussi où on luttait. Parce que
le casino milanais aussi, ouais. Rue de la Poudrière, qui l'a bien nommé, qui était l'ancienne rue Roquelaine. Il y avait une salle de spectacle là, voilà. Et donc les lutteurs se produisaient là, et pendant 10 ans, Jean-Pierre, le laboureur, et il a fait des combats.
Ouais. Et ça m'a fait penser aussi, mais c'est plutôt là le cirque, à ces tableaux de Henri de Toulouse-Lautrec ou d'Edgar Degas, où on voit ces artistes de cirque, parce qu'il y a quand même un lien, dans ces spectacles populaires. Entre le cirque et la lutte.
Oui. On le verra plus tard, quand il y aura un autre temps dans sa vie et qu'il sera ce qu'on peut qualifier phénomène de foire. On verra que c'est très lié. Hein. Mmh. Les dompteurs côtoient les femmes à barbe. Hein. Et donc, y a, voilà, ce sont les spectacles de l'époque. Hein.
Et le monde du cirque est quand même, à Toulouse, à quelques personnages extrêmement connus, parce que vous parlez du clown Auriol,
oui, oui.
De Jules Léotard, l'inventeur du salto en trapèze volant.
Oui, oui, Léotard, qui est de la famille des Léotards que nous connaissons, nous, Philippe Léotard et François Léotard. Oui, des personnages. Mais toutes les grandes villes, enfin, si on pouvait appeler Toulouse une grande ville, hein, je ne sais pas quel était son classement à l'époque, hein, mais Marseille, Lyon, Bordeaux, toutes ces villes avaient leur phénomène. Avaient leurs idoles. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y avait une émulation entre les cités. Donc, quand plus tard, non, même pas, dans cette période-là, entre 1875 et 1885, c'est-à-dire les 10 années où Jean-Pierre Mazas a eu sa gloire, où il a perdu aucun combat, il ne voulait pas jamais s'éloigner de sa terre parce qu'il était paysan d'abord. D'ailleurs, il n'en faisait pas grand cas, alors qu'il devait bien vivre quand même.
C'était parce qu'il y a certaines sommes. À un moment, vous parlez d'un repas à Toulouse à 2 euros en plein centre de Toulouse, et puis il gagne des sommes de 500 euros, 1000 euros.
Oui, on ne sait pas en euros à l'époque.
Excusez-moi. Oui.
Non, mais le rapport.
Attends pour moi.
Non, mais c'est bien pour le rapport, parce que c'est justement à peu près le même rapport. Ouais. Donc, c'était un complément important à son activité de métayer. Qui était donc un arrangement économique avec un châtelain, et on y viendra peut-être. Mais je pense qu'il y avait de jolies bas de laine à un moment donné, quand même.
Alors, ce qui est vraiment savoureux, hein, c'est parce que la lutte crée une certaine culture, et dans la culture, c'est aussi la littérature. Et dans votre livre, vous parlez d'un roman, c'est-à-dire que le romancier que vous êtes, qui s'empare des faits divers, d'une réalité sociale, d'AZF, etc., eh bien, de la même façon, un certain Léon Ville écrit L'Hercule du Nord, un roman où il raconte un certain nombre de faits, peut-être réels, peut-être imaginaires, et il rapporte le nom de ces lutteurs qui sont vraiment, je le dis encore une fois, très savoureux. Alors, je lis. Tomblé, l'homme aux muscles de fer, Pierre, le taureau de la Camargue, Félez, l'ours des Pyrénées, Combert, l'homme de bronze, Bouvet, l'homme canon, Bastien, le grand tombeur, Abdoulac, le rempart de Bayonne, Eugène l'anguille, Antoine sans pitié, Tralet, l'indomptable arlésien, parmi tout cela et beaucoup d'autres célébrités, Mazas et Jean-Pierre, l'enfant de Montastruc. Et vous rajoutez, un enfant, ce grand bonhomme, l'intention de l'auteur, était sûrement quelque peu ironique. Mais cela dénote aussi, à n'en pas douter, une réelle affection. Gageons que beaucoup devaient se demander tout de même où se trouvait Montastruc.
Ça, c'est sûr. Bordeaux, il n'y a pas de souci, je pense, à l'époque, mais Montastruc. Oui, ben Léonville, ça fait partie des... Le livre est formidable, le livre de Léonville.
Vous le conseillez?
Ben oui, alors il est introuvable, j'ai eu du mal alors mais sans doute sur les portails habituels des bibliothèques comme Gallica, qui m'a beaucoup servi aussi, il est peut-être numérisé, mais j'ai acquis au moment de mes recherches le seul exemplaire disponible de l'Hercule du Nord, et alors sans arrière-pensée, quoique j'étais en quête, donc tout faisait ventre à ce moment-là. J'allais chercher chez Zola des choses. C'est une époque où j'ai relu les Rougon-Macquart pour un autre projet aussi. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il va pas passer dans l'œuvre de... Voilà. J'ai relu Maupassant, j'ai relu les quelques auteurs que vous évoquiez au début de l'émission, en me disant, forcément, puisque c'était une gloire, il aura laissé des traces dans la littérature. Mais c'était sans compter avec un certain snobisme, certainement une condescendance. Je pense qu'il y avait une élite qui ne partageait pas la vie du petit peuple. Et que ça devait quand même être regardé de loin, ces affaires de lutte, de foire, de cirque.
Moi, j'ai trouvé, en lisant ce livre, que vous ressuscitiez un monde englouti dont on entendait très peu parler, finalement.
Peut-être, j'espère qu'il apporte une... Voilà, peut-être, en tout cas, Il ressuscite pas Mazas, il est mort, le brave, le pauvre. Mais j'ai appris par un article de la Dépêche du Midi, là, il y a 15 jours, que depuis la parution de mon livre et d'un autre ouvrage d'un historien, alors avec un angle, une approche tout à fait différente, puisqu'il est historien, qu'il a consacré aux géants, que depuis la parution de nos livres, alors que le nom de Jean-Pierre Mazas était illisible sur sa tombe, aujourd'hui quelqu'un est venu peindre dans les creux, voilà. Et à nouveau, on peut lire son nom sur sa tombe. Et oui, c'est une satisfaction à un moment donné de faire renaître un monde. Voilà, et je suis sûr que ça porte chance, ces affaires-là. Parce qu'il méritait bien qu'on en parle encore, je pense. Surtout pas. Il n'est pas si anachronique que ça, je trouve. Et il y a encore des géants dans ce monde, ouais. Malgré eux ou qui aspiraient à le devenir.
Alors, Pascal Dessin, enquêteur, lorsqu'il tombe sur l'acte de décès de Jean-Pierre Mazas, Pascal Dessin, archiviste et historien, parce que vous avez dû passer des heures, la bibliographie finale de votre livre le montre dans des bibliothèques, mais vous êtes avant tout auteur, écrivain, homme de lettres, et surtout vous rendez l'oralité à certains endroits, par exemple le boniment du bonisseur. Ça c'est formidable, vous arrivez à mettre en mots, alors je le lis, hein. Donc le boniment est bien, je vous lis, le boniment est bien rodé, la foule n'est plus qu'une masse silencieuse, un fouillis de têtes captives, le bonisseur est entouré de ses vénérables lutteurs, poitrine épaisse, biceps noueux, le corps moulé dans des maillots chairs ceinturés de rouge. Les bras croisés, ils parcourent le public d'un regard supérieur, comme s'il s'agissait d'un ramassis de vulgaires croquants. Ils sont prêts à de magnifiques assauts, à de furieuses étreintes. Et le maître de cérémonie de louer maintenant leurs mérites homériques, leur beau tempérament mythologique, etc. Et il dit « Mais n'oubliez pas, bonnes gens, la lutte n'est pas un combat, c'est la première gymnastique du monde. Le bonisseur promet néanmoins que les arrogants auront bientôt la patte plus basse et la gueule moins haute. » Quelle force dans l'évocation.
Oui, on essaie de faire des phrases. Oui, bah alors après, tout ça est justement nourri de la littérature de l'époque. Quoi, hein. Je veux dire, on veille à être dans la tonalité de la période. Et alors ça, un passage comme ça que je n'aurais pas pu écrire sans m'être nourri justement de ces auteurs qui ont écrit sur la lutte, parce qu'il y a tout un vocabulaire qu'on ne peut pas inventer. Hein. Voilà, donc le mérite de l'auteur, c'est surtout de mettre en scène et de trouver le bon habillage, quoi.
C'est en tout cas très, très réussi, notamment le style dans les chapitres qui s'intéressent au combat. C'est très réussi. Alors, après ces combats, il y a quand même un hiatus dans la vie de Jean-Pierre Mazas. Il se passe quelque chose.
Il va se marier.
Alors, il se marie.
Ah, c'est important quand même. Oui. Non, parce que c'est très important de le dire, parce qu'il a eu une vie normale. Et il a rencontré Marie-Adèle. Moi, je fantasme. La réalité, je l'ai apprise depuis, elle est plus banale et sans doute plus triste. Moi, je romantise l'affaire, parce que c'était une zone d'ombre dans mon travail. Je n'avais pas trouvé les sources. Bon, elles existaient, mais elle ne m'était pas tombée sous les yeux.
Il y a un écart d'âge entre les deux.
Il y a un grand écart d'âge, ce qui rendait l'association un peu intrigante, hein, pour le moins. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème là? Alors après, on pourra toujours développer des hypothèses sur les raisons profondes de ce mariage, sur l'amour, etc. Moi, j'en ai fait une petite chose romantique quand même. Voilà, une belle rencontre qui va donner naissance à 3 enfants, 2 garçons et une fille.
Donc, François, Joseph et Rosalie.
Et voilà, et dont aucun n'aura les traits du géant, ce qui est formidable, parce que visiblement, c'est une maladie génétique, mais qui ne se transmet pas de génération en génération. Voilà.
L'acromégalie.
Et on le saura un petit peu plus tard.
On le saura plus tard, oui. Ouais. En parlant des enfants, l'un des fils que vous avez tiré dans cette idée d'historien finalement, de croiser les sources, c'est aussi l'article du Fils. Il paraît.
Oui, c'est dans la dépêche du Midi, je ne sais plus quelle date, 66, où il évoque son père. Alors, le père est mort en 1901, vous imaginez. Alors, le fils Joseph, il est né en 83. Donc, il est à la fin de sa vie quand il témoigne. Il est d'ailleurs à la maison de retraite de Gémille, où la famille s'est réfugiée après quelques tracas judiciaires. Voilà. Donc le fils évoque son père et c'est touchant, mais j'y croyais pas trop. C'était pas, ça pouvait pas être aussi beau.
Il y a l'effet de la mémoire
bien
qui
sûr,
un
oui,
peu
oui,
fait filtre.
Oui. Et donc ce fils, quand il est à la fin de sa vie, il est content, il est heureux d'avoir eu un père fantastique. Et tant mieux, parce que en plus c'était certainement un père très gentil. Donc c'est une belle image. Mais j'ai trouvé que c'était trop, le portrait, voilà. Et puis, il y avait quelque chose qui m'a intrigué, c'est-à-dire qu'il parlait d'une sombre affaire. Ah. Une sombre affaire, et au XIXe siècle, une sombre affaire, c'est une affaire crapuleuse, de sang, c'est un crime, voire un assassinat, un meurtre. Et là, l'auteur de polar que j'étais a été intrigué. Donc ça a été l'objet d'une quête de plusieurs mois.
Vous avez recoupé des choses.
Voilà, je n'ai pas trouvé.
D'accord.
n'ai pas trouvé.
Alors, juste dans le livre, il y a quand même une affaire judiciaire.
Oui,
en
ayant été intrigué de cette façon-là, ça m'a mené à cela.
D'accord.
Mais bon, je me dis que s'il y avait eu réellement, en tout cas sur le territoire du Grand Sud-Ouest, on va dire, puisque je m'en suis remis aux archives du Tarn et aux archives de la Haute-Garonne, à peu près. S'il y avait eu une affaire criminelle l'impliquant sur ces deux départements, j'aurais trouvé une trace, puisque j'ai passé au crible toutes les affaires judiciaires. Voilà. Aux assises. Voilà. Et c'est une bibliothécaire des archives départementales de la Haute-Garonne avec qui j'ai parlé et qui m'a dit « Mais regardez quand même, au civil !» Et c'est au civil que j'ai trouvé cette affaire. C'est une petite affaire qui peut paraître anodine, mais qui est aussi un point de bascule dans la vie du personnage. C'est qu'à un moment donné, Jean-Pierre Mazas s'est blessé. Il ne peut plus travailler au champ comme il le faisait. Il ne peut plus honorer donc son contrat de métayage. Il y a un appauvrissement. Et puis Marc Telade, le châtelain, bien bon, lui fait un procès. Ce qui est complètement dégueulasse, faut le dire. Donc c'est un point très 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 important. Voilà, c'est le méchant châtelain contre le gentil laboureur.
Mais dans la vie du livre, donc vous nous dites que vous avez eu à faire avec les descendants de Jean-Pierre, mais et avec les descendants de Telade.
Ben non, j'ai pas eu.
Ils se sont pas fait connaître.
Non, pas encore, pas encore, parce que c'est vrai que je dresse pas un portrait.
Il
n'y
a pas de laurier, mais bon. Après, c'est la vie comme elle va.
Oui, mais bon.
C'est le rapport de classe.
C'est le rapport de classe. C'est pas, je crois, de la caricature, parce que je pense qu'il y avait cette condescendance, hein, il y avait cette violence sociale. À un moment donné, si on ne servait pas, on ne servait à rien.
Oui, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'assurance, c'est pas mutualisé, le risque il est pris.
C'est d'une violence, on n'imagine plus, quoi. Et alors, pour revenir sur la question de la sombre affaire, quand les descendants de Jean-Pierre Mazas sont venus me voir, ils ont évoqué une sombre affaire possible, mais je n'en dirai rien.
Bon. D'accord, nous en resterons là.
C'est le livre après le livre. C'est ça qui est magnifique. Et c'est pas fini, parce que maintenant que le livre existe, qu'il circule, qu'il y a un certain bouche à oreille, on vient me confier des choses. Il y a encore des gens aujourd'hui. Moi, j'ai un lecteur qui est très fidèle, qui m'a dit « Mais moi, je m'appelle Jean-Pierre parce que Jean-Pierre Mazas.
Ah oui.
Quand j'étais petit, mon père, en passant à côté de Montassouc, la conseillère, dans la voiture, me disait « Tu vois, ici, il y avait un géant qui s'appelait Jean-Pierre Mazas. Et tu t'appelles Jean-Pierre à cause de ça. C'est magnifique.
Ouais, c'est magnifique.
C'est un homme qui a aujourd'hui 55 ans. C'est-à-dire que c'est encore là, quoi.
Oui,
c'est
ça passe
encore
à travers
là.
Les âges,
ouais.
À travers les générations.
Voilà.
On fait donc appel aux auditeurs de Radio Présence.
Oui, mais
toute personne qui pourrait connaître.
Oui,
bien anecdote.
On appelle ça aujourd'hui un flyer, mais à l'occasion d'un combat, on faisait des affiches qu'on mettait sur les arbres. Il y avait des petites publicités, des réclames. Voilà. Et ben, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé une photo d'une réclame qui avait été retrouvé dans les affaires de la famille. Et il y a des choses. Alors, effectivement, je ne lance pas un appel parce que je ne vais pas passer ma vie
dans les greniers.
Dans les greniers, et puis à écrire la suite du Colosse. Mais c'est tout, ça peut toujours être très, très intéressant. Moi, il me plairait de retrouver une affiche de certains combats de villes où j'ai pas de traces. Voilà, où je n'ai pas eu de trace, je sais. Où... Alors, il a combattu à Albi, évidemment à Lavore, Toulouse, Bordeaux. À Bordeaux, il était déjà plus phénomène de foire que lutteur. Mais voilà, il y a toujours la mémoire, c'est magnifique. Là aussi, c'est beaucoup, beaucoup de fascination.
Eh oui, bien sûr. Et donc, après cette vie de lutteur, vous le dites, il y a cet accident.
Voilà, il se fait très mal, oui.
Voilà, on a l'impression qu'un peu c'est la chute.
C'est Hercule qui tombe de son socle. Alors, il a eu, à mon avis, il a été au-delà de ses forces. Il avait une surcharge. Alors, il y avait sa maladie qui a joué pour beaucoup, parce que ça finit par peser sur l'organisme. Hein.
Parce que de 2,20 m...
Oui, et puis l'acromégalie ne se résorbe pas, c'est-à-dire que les articulations continuent à se durcir. On disait qu'il avait très mal à la tête, il était son corps se crispait, ses organes, ils étaient soumis à des pulsions. Un médecin en parlerait mieux que moi, mais le corps n'est pas dans des conditions saines et de fonctionnement. Enfin, il a forcément, on tire sur la corde dans ces cas-là. Et donc, il a fini par abuser sans doute de sa force. 10 ans de lutte. Et c'était pas n'importe quoi, parce qu'il faisait 2,20 m, mais 160 kilos aussi. Imaginez le bazar. La bestiole. Et il y a des gens qui venaient de la France entière, Milhomme, il y en a eu un autre aussi, Jules Duval, qui est venu avec tous ses lutteurs pour le défier.
Toulouse contre Paris, Paris contre Toulouse.
Voilà, exactement. Et c'était extraordinaire. C'est-à-dire que ça, tout le week-end, c'était des luttes du matin au soir, quoi. Alors il y avait les seconds couteaux qui défiaient avant le patron, mais c'était quand même, voilà. Alors ça durait jamais longtemps, parce que très vite on était par terre, hein, le dos dans la sciure, mais n'empêche que c'était violent. Et puis en même temps qu'il y avait ces combats, il y avait le travail des champs, et certainement encore toute la générosité du personnage qui faisait qu'il aidait les uns et les autres. Donc quand il a son accident, que sa blessure au dos, lui il croit que sa colonne vertébrale s'est brisée, c'est pas possible. Mais ça lui fait cet effet-là, tellement la souffrance est grande. C'est en 1885. Et il a quel âge? Il a 40. Il est né en 47. Il n'a même pas 40 ans. Il a 38 ans, si je compte bien, à peu près. Donc à partir de là, c'est une dégradation, c'est son humeur aussi qui... Il va encore un peu combattre, hein, mais ça sera fini, quoi. Déjà, c'était pas une lutte élégante.
C'est ce qui est dit.
Voilà, on disait que sa lutte était une lutte...